Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le ministre de la Santé et les producteurs de spiritueux se sont mis d'accord pour renforcer les mesures contre la vente d'alcool aux mineurs. Une plaque en hommage à Anna Politkovskaya a été dévoilée à Karlovy Vary. En football, le Viktoria Plzeň et le Sparta Prague affrontent deux clubs espagnols ce jeudi soir en Ligue Europa. Le ministre de la Santé, Leoš Heger, les producteurs de spiritueux envisagent un travail commun pour la protection des enfants et des adolescents face aux dangers de l'alcool. Les discussions ont également porté sur les mesures à adopter afin que les bouteilles d'alcool fort puissent être vendues sur le marché tchèque en toute sécurité. Une équipe de travail mise en place mercredi et associant des représentants de 5 ministères doit soumettre au gouvernement des dispositions afin de changer la législation en la matière. Le ministère de la Santé songe ainsi à interdire les stands de vente d'alcool dans la rue ou à renforcer les sanctions prises contre ceux qui auraient fourni de l'alcool à des enfants. Cette réunion intervient alors qu'une crise sanitaire majeure touche la République tchèque depuis le début du mois de septembre. Près d'une trentaine de personnes sont mortes après avoir bu de l'alcool coupé au méthanol. Si le gros de la crise est passé, 3 nouveaux individus ont été hospitalisés ce jeudi en Moravie du Sud suite à une intoxication. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a effectué ce jeudi une visite de travail en France, à Paris. Karel Schwarzenberg a notamment été reçu par son homologue Laurent Fabius. Le chef de la diplomatie tchèque s'est également rendu au cercle de l'Union interalliée. Plus de détails sur sa visite de notre envoyé spécial Guillaume Narguet dans Faits et événements en République tchèque. Et le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a reçu les signatures des 40 députés du parti conservateur Top 09, dont il est le président, ainsi que celles du mouvement apparenté des maires indépendants. Cette information a été fournie par son équipe de campagne et valide sa candidature à la présidentielle de janvier 2013, laquelle se déroulera pour la première fois au suffrage universel. Une plaque commémorative en hommage à Anna Politkovskaya a été dévoilée ce jeudi à Karlovy Vary, en Bohême de l'Ouest. Le square où la plaque a été installée porte désormais le nom de la journaliste russe assassinée il y a 6 ans, en octobre 2006. La ville de Karlovy Vary, où résident de nombreux ressortissants de l'ex-URSS, est la première ville du pays à avoir répondu à l'appel lancé par l'ONG Člověk v tísni, People in Need. Cette dernière incite les communes tchèques à donner à leurs rues et parcs les noms des dissidents, journalistes et défenseurs des droits de l'homme. D'après l'adjoint au maire de Karlovy Vary, Jiří Kosák, il faut se rappeler des gens courageux qui mènent un combat pour la vérité. Ni le chef de l'État Václav Klaus ni le premier ministre Petr Nečas n'assisteront à la cérémonie officielle ce vendredi à l'aéroport de Prague, qui sera alors officiellement rebaptisé du nom de l'ancien président Václav Havel, décédé le 18 décembre dernier. Ce vendredi 5 octobre, Václav Havel aurait fêté ses 76 ans. Environ 500 personnalités devraient tout de même prendre part à la cérémonie, dont le chef de la diplomatie et le vice-premier ministre Karel Schwarzenberg et le président du Sénat Milan Štěch. On passe au football. Après une première défaite à Lyon, le Sparta Prague doit réagir ce jeudi soir à domicile contre les Basques de l'Athletic Bilbao. Si le club ne veut pas hypothéquer ses chances de sortir du groupe I en se qualifiant pour la phase finale de la Ligue Europa. Et dans le groupe B, le Viktoria Plzeň aura fort à faire en déplacement à Atlético Madrid, vainqueur de la compétition l'an dernier, face justement à l'Athletic Bilbao. Le club tchèque a cependant bien démarré la compétition en s'imposant face au portugais de l'Académica de Coimbra et se classe actuellement deuxième au championnat tchèque. Côté météo, les nuages sont toujours au rendez-vous sur le territoire tchèque vendredi, jour de la fête de toute la Eliška. Ils seront porteurs de pluie sur toute la partie nord de la Bohême. Les températures restent agréables pour la saison et varient entre 16 et 20 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Václav Richter. Moi-même, je vous retrouve dans le magazine touristique.
Faits et événements en République tchèque.
Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, en visite à Paris. Le Théâtre national de Prague subit une cure de rajeunissement. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée au magazine touristique, dans le cadre duquel Magdalena Hrozinková vous proposera de visiter le musée du jouet de Rychnov nad Kněžnou en Bohême de l'Est. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Ce jeudi, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a visité Paris. Depuis l'entrée en fonction de François Hollande à l'Élysée et l'installation du nouveau gouvernement Hérault, la visite de Karel Schwarzenberg constitue la première visite en France d'un haut responsable tchèque, la première visite également depuis celle du chef du gouvernement Petr Nečas en janvier dernier. Plus de détails avec notre collègue Guillaume Narguet, qui a suivi le déroulement de la visite du ministre tchèque dans la capitale française.
Dans un contexte de crise économique en Europe qui n'a guère évolué depuis le début de l'année, le chef de la diplomatie tchèque rend d'abord une visite que l'on qualifiera de courtoisie à son homologue, Laurent Fabius, qu'il aura reçu en fin de journée au Quai d'Orsay, une visite sur laquelle nous reviendrons et que nous évoquerons plus en détail dans nos émissions de vendredi. Avant cela, le programme officiel de la journée parisienne de Karel Schwarzenberg a commencé par un passage au cimetière du Père-Lachaise. C'est là, en effet, que se trouve l'urne funéraire de František Kupka, un des pionniers de l'art abstrait et peintre tchèque probablement le plus célèbre du XXe siècle, comme l'a qualifié lui-même Karel Schwarzenberg. Peintre tchèque, certes de nationalité, mais bien français de cœur, mais qui a passé sa carrière artistique en France et qui a combattu en France durant la Première Guerre mondiale. Ce passage dans le célèbre cimetière parisien a été l'occasion pour Karel Schwarzenberg de préciser que cette urne funéraire de František Kupka resterait bien, probablement du moins en France, et que la République tchèque n'entendait plus la faire revenir dans son pays d'origine. Après également le dépôt d'une gerbe au pied du monument édifié en la mémoire des légionnaires tchécoslovaques, morts pendant la Première Guerre mondiale, Karel Schwarzenberg s'est rendu au club interallié, situé faubourg Saint-Honoré, pour un déjeuner avec Paul-Jean Ortiz, le conseiller diplomatique du président de la République française. Les questions européennes, la situation au Proche-Orient et notamment en Syrie, et bien entendu l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelin, pour laquelle le groupe français Areva est candidat, ont constitué les thèmes centraux de cet entretien, tout comme on peut le supposer de celui qui attend donc Karel Schwarzenberg en fin de journée avec le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Une rencontre qui permettra aussi de rappeler que depuis la fin de la présidence tchèque de l'Union européenne en juin 2009, les relations franco-tchèques se sont nettement améliorées et réchauffées. À Paris, pour Radio Prague, Guillaume Narguet.
Le Théâtre national de Prague, un des monuments les plus importants et les plus typiques de la capitale tchèque, change d'aspect. Il subit à l'heure actuelle une cure de rajeunissement, au terme de laquelle il sera bien différent de l'édifice brun foncé et noirci par le temps qui se dresse actuellement sur le quai de la Vltava. Le Théâtre national est le fruit du patriotisme tchèque. Il a été construit par l'architecte Josef Zitek vers la fin du XIXe siècle grâce à d'innombrables dons de simples gens, mais aussi de plusieurs grands mécènes, dont l'empereur d'Autriche-Hongrie François-Joseph Ier. Inauguré en 1881, le théâtre a été ravagé la même année par un incendie considéré par les patriotes tchèques comme une catastrophe nationale. Ils ont déployé une fois de plus un immense effort pour réunir les moyens nécessaires et ont réussi en 2 ans à faire renaître le théâtre de ses cendres. En 1883 a eu lieu la deuxième inauguration du Théâtre national qui allait devenir un centre culturel important et la fierté de tous les Tchèques. Au cours de son existence, l'édifice a été restauré plusieurs fois et la dernière rénovation a commencé en juin dernier. Cette fois-ci, il s'agit du ravalement de la façade richement sculptée et ornée d'innombrables statues. Le directeur adjoint des services techniques du théâtre, Miroslav Ružička, explique pourquoi il fallait procéder au nouveau ravalement de la façade 30 ans seulement après la dernière rénovation générale de l'édifice.
En 1983, le ravalement de la façade a été un des derniers travaux de la rénovation générale du théâtre. La date de la réouverture fixée par le gouvernement approchait et il n'y avait pas assez de temps pour la réalisation complète des travaux. Actuellement, nous mettons donc la façade dans l'état dans lequel elle devait déjà être à l'issue de la rénovation en 1983.
Miroslav Ružička admet cependant aussi que le délabrement actuel de la façade n'est pas dû uniquement à la rénovation bâclée des années 1980.
Presque 30 ans se sont écoulés depuis ce moment-là et pendant tout ce temps, la façade a été exposée aux conditions environnementales extrêmes de l'agglomération de Prague. Il est évident que cela a également laissé des traces sur l'état actuel de la façade.
Les gros travaux sur les terrasses, sur les galeries extérieures et dans l'espace devant les portes de l'édifice ont été réalisés pendant les vacances d'été, donc pendant la période où le théâtre est fermé au public. Pendant la saison théâtrale, la rénovation doit se poursuivre sans gêner le public et le fonctionnement du théâtre. Pendant longtemps, les restaurateurs de monuments historiques étaient convaincus que les façades de ces édifices devaient rester sombres et noircies par le temps. Parfois, ils n'hésitaient même pas à noircir artificiellement les façades pour conserver leur aspect historique. Heureusement, de telles opinions sur la restauration des monuments historiques semblent aujourd'hui reléguées au passé. Selon Miroslav Ružička, les opinions sur la méthode de restauration et sur la couleur de la façade ont évolué au cours des préparatifs pour la rénovation.
À la suite d'un examen complémentaire auquel les restaurateurs ont procédé en juin et juillet de cette année, a été modifié le projet initial de la couleur de la façade. Le degré de nettoyage devait être plus élevé. Nous ne supposions pas d'abord qu'il serait procédé dans une mesure importante au nettoyage abrasif. Mais actuellement, c'est justement le nettoyage abrasif qui domine les travaux et plus de 50% de la façade sont nettoyés de cette méthode.
La couleur de la façade rénovée du Théâtre National devrait donc varier du jaune pâle au beige avec des nuances ocre et prendre donc l'aspect semblable à celui qu'elle avait après l'inauguration du théâtre à la fin du 19e siècle. Pour certains Pragois, ce sera peut-être un choc de voir sur le quai de la Vltava leur théâtre qui aura changé de couleur. Ils auront ainsi la possibilité de se rendre compte que cet édifice, qui pour beaucoup d'entre eux représente la tradition, était considéré à l'époque comme un bâtiment moderne. Ils verront une partie de la façade restaurée du Théâtre National au mois de mai prochain. Le ravalement doit être complètement achevé au plus tard le 31 décembre 2015, mais il se peut que la durée des travaux soit considérablement raccourcie. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Aujourd'hui, dans le magazine touristique, Magdalena Hrozinková vous propose de visiter le musée du jouet de Rychnov nad Kněžnou en Bohême de l'Est, un musée privé fondé par deux collectionneurs passionnés en 2005.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Rychnov nad Kněžnou est une jolie commune de 11 000 habitants située à 150 km au nord-est de Prague, au pied des montagnes Orlické hory. L'histoire de la ville, qui doit son nom à la petite rivière Kněžna, remonte au XIIIe siècle. Sur le blason de Rychnov nad Kněžnou datant de 1488, on voit une jeune fille qui monte un cerf. Une légende raconte qu'il s'agissait d'Ophélie, la fille d'un seigneur de Rychnov, sauvée par des bûcherons lorsqu'un cerf qu'on lui avait offert pour son anniversaire s'était emballé au cours d'une chasse. Nous nous dirigerons vers le centre historique de la ville. Nous passerons à côté de l'imposant château construit à l'époque de la Renaissance par Jan Blažej Santini et remanié plus tard dans le style baroque. Le château abrite notamment une riche collection de peintures baroques, tchèques et européennes, rassemblées par la dynastie des Kolovrat, ainsi que des précieux manuscrits. Au cœur de la ville, sur la place aux nombreuses maisons voûtées, nous poussons les portes de l'ancienne mairie de Rychnov nad Kněžnou. Au rez-de-chaussée se trouve un centre d'information touristique. Au premier étage, nous sommes accueillis par Miroslava Pecháčková, propriétaire avec son mari du musée du jouet, dont trois salles d'exposition sont installées derrière les vitrines, des centaines de jouets. jouets pour garçons et filles, dont les plus anciens datent de la seconde moitié du 19e siècle et les plus contemporains des années 1980. Il s'agit de jouets fabriqués maison ou industriels, mais provenant tous de Bohême et de l'ancienne Tchécoslovaquie. L'objectif des propriétaires du musée étant de présenter, à travers l'histoire du jouet, la vie des enfants tchèques, voire le mode de vie local depuis l'Empire austro-hongrois jusqu'à la fin de l'époque communiste. Et c'est un peu aussi ce que nous allons essayer de faire dans ce magazine touristique. Devant la première pièce du musée sont exposés les jouets les plus anciens, ceux de la fin du 19e siècle. Miroslava Pecháčková. Dans le monde, l'industrie du jouet commence à se développer vers 1850. Ici, dans les pays tchèques, ce n'est que 50 ans plus tard que les parents, issus de la classe moyenne, commencent à acheter des jouets à leurs enfants. Avant cela, on fabriquait des jouets à la maison. Nous en avons ici quelques exemples. Une vieille poupée en bois, un cheval à bascule, de petits meubles. À côté, vous pouvez voir une très belle maison de poupée qu'un fabricant de Liberec a acheté en 1900 à sa fille pour son 10e anniversaire. On y trouve des armoires, un paravent, un sofa. Comme la maison est assez grande, on peut supposer que la petite fille devait avoir elle aussi une grande chambre pour que tout cela puisse y rentrer. C'était sûrement un jouet très cher pour son époque. Les maisons de poupées de différents styles et différentes époques représentent une véritable leçon d'architecture, de design et de civilisation. Le musée dispose par exemple d'une petite maison dessinée dans les années 1930 par le célèbre architecte Joseph Gauchard, influencé par l'art nouveau, le cubisme et le fonctionnalisme. D'autres maisons de poupées ont été faites encore dans la première moitié du XXe siècle par les parents. Les pères taillaient le bois des meubles et fabriquaient les maisons en tant que telles. Les mères les décoraient de rideaux, de nappes, de tapis, de papier peint. Dans les magasins, il était possible d'acheter des accessoires, des fers et planches à repasser, machines à coudre, l'équipement de la cuisine. Miroslava Pecháčková. Dans l'entre-deux-guerres, la fabrication industrielle des jouets se développe très rapidement. On prête alors beaucoup d'attention aux détails. Dans les maisons de poupées, des réservoirs d'eau permettaient, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir de l'eau courante. On pouvait même faire chauffer le poêle, car il était équipé d'un réchaud à alcool, et préparer quelque chose dans de petites casseroles aux anses en porcelaine. Il y a vraiment de tout. Un seau à charbon, des lampes à pétrole, un cagibi où sont rangés des instruments de nettoyage. Dokonce i úklidová komora. Le musée de Rychnov nad Kněžnou présente également des jouets techniques de la première moitié du XXe siècle, tels que des jouets mécaniques expliquant les principes physiques, un réseau ferroviaire permettant la circulation de plusieurs trains anciens ou encore des machines à vapeur.
On s'aperçoit que de nombreux jouets de l'époque, comme les machines à vapeur ou le réchaud à alcool, étaient à feu ouvert. Nous exposons aussi un projecteur qui fonctionnait lorsqu'on y allumait une bougie derrière. Devant, il y avait un film celluloïde qui passait. Il serait impensable aujourd'hui de fabriquer un tel jouet, vu à quel point le celluloïde est inflammable. Mais les enfants étaient certainement surveillés quand ils jouaient avec. Il y a un autre aspect encore. Tous les jouets de l'époque avaient une mission éducative. Ils devaient préparer les enfants à la vie réelle, leur expliquer comment fonctionne l'univers qui les entoure. En plus, les enfants étaient habitués à manipuler les objets dangereux. On les préparait dès leur plus jeune âge à leurs futures occupations. Les filles apprenaient à cuisiner et à coudre. Elles savaient se servir très tôt d'une aiguille et de ciseaux. Et les garçons, eux, de différents instruments. C'était vraiment une époque très différente de celle d'aujourd'hui.
Ta doba byla opravdu úplně jiná.
Au musée du jouets de Lechnov nad Kněžnou, une section à part est consacrée aux jeux et aux jouets d'autrefois censés éveiller ou renforcer le sentiment patriotique chez les enfants tchèques. Ainsi, on y trouve par exemple toute une armée de sokols de plomb, les sokols étant, vous le savez, les membres de la célèbre organisation sportive tchèque qui avait aussi justement une mission patriotique et culturelle. L'histoire de la région de Lechnov nad Kněžnou, montagneuse et pauvre, est bien présente elle aussi au musée du jouet. Ces derniers exposent par exemple un jeu de patience fabriqué par un certain monsieur Bouček, jusqu'à ce que son entreprise ne soit nationalisée par les autorités communistes. Miloslava Pecháčková.
No a jsme v kraji Vamberecké krajky. Tady máme krásný lidový nábytek.
Puisque nous sommes ici dans une région réputée pour la fabrication de la dentelle, surtout de la dentelle le Vamberk, vous pouvez voir ici une maison de poupée dans le style populaire, une maison encore une fois fabriquée, on peut supposer, par les parents. On y voit tous les instruments nécessaires pour la fabrication de la dentelle au fuseau, surtout le herdule, une sorte de coussin rouleau rempli de paille, de sciure ou de sable. La dentelle était ici un moyen de survie, surtout en hiver, et elle était fabriquée non seulement par les femmes, mais également par les hommes et les enfants, par des familles entières.
V zimních měsících, takže celé rodiny se živily právě tímto paličkováním.
Notre visite du musée du jouet s'achève devant une autre maison de poupées plus contemporaine, entourée de fusées, de chars et de voitures de l'époque communiste. Datant des années 1980, cette maison de poupées est pourtant aussi en quelque sorte un objet historique, comme nous l'explique Miroslava Pecháčková.
Návštěvníky tady překvapí i velmi mladé návštěvníky.
Beaucoup de jeunes visiteurs, de jeunes mères surtout reconnaissent cette maison qui fait partie, avec ce landau-là, des jouets les plus modernes de notre musée. Il se trouve que les entreprises tchécoslovaques qui fabriquaient ces objets-là, tels que Liberta ou Chemoplast, ont fermé dans les années 1990. Voilà pourquoi ces jouets sont déjà entrés dans l'histoire.
A tento kočár není. Proto už ty hračky jsou historie, i když jsou poměrně nedávné.
Et depuis combien de temps, en fait, Miroslava Pecháčková et son époux collectionnent-ils les jouets?
20 let se tomu věnujeme. Musím říct, že opravdu to, co před 20 lety ještě se dalo sehnat.
Cela fait 20 ans que nous avons commencé. Je dois constater que des objets historiques que nous avons pu trouver sur le marché il y a 20 ans sont aujourd'hui introuvables. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'existe presque plus de greniers de caves où autrefois les gens conservaient les objets hérités de leurs aïeux. Ceux qui ont des greniers les aménagent et les caves ne sont plus vraiment utilisées ni construites. Les gens qui avaient par exemple de vieux jouets s'en sont déjà débarrassés. Évidemment, nous sommes prêts à acheter des jouets beaux et de qualité qui ont une valeur historique. À part cela, nous suivons les ventes aux enchères sur Internet, les petites annonces, nous allons aussi au marché aux puces. Nous nous débrouillons comme nous pouvons.
Tato veliká panenka 120 cm vysoká.
Cette grande poupée haute de 120 cm est devenue la mascotte de notre musée. Non seulement elle impressionne par sa beauté et par sa taille, mais elle a aussi une histoire particulière. Elle a été fabriquée autour de 1900 sur commande de trois dames, trois sœurs célibataires. On voit bien qu'elles prenaient soin de leur poupée. Elles portent une robe magnifique, un chapeau, une ombrelle, des gants, de belles chaussures. Nous avons racheté cette poupée à une famille de la région de Mielnik qui possédait une précieuse collection d'objets historiques. Malheureusement, pendant les grandes inondations de 2002, presque toute leur collection a été endommagée. Parmi les quelques objets qui ont été sauvés et que la famille a ensuite vendus, il y avait cette grande poupée.
Mimo jiné právě tato veliká unikátní panna, takže oni to pak odprodávali a my jsme to mohli odkoupit.
Ouvert pendant toute l'année, le musée du jouet se trouve sur la place historique de Lechnov nad Kněžnou. Plus de détails sur son site www.muzeumhraček-rk.cz.
Dans le cadre du magazine touristique, Magdalena Hrozinková vous a amené au musée du jouet de la ville de Lechnov nad Kněžnou. Merci d'avoir suivi cette émission et merci également de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.